Dali, Van Gogh, Goya, Dürer, voyage en terre de couleur. Une émission réalisée par Corinelle, un programme Maurice Clément Fèvre. Notre peintre vient donc de participer en 81 à trois des six premières expositions des impressionnistes. Elle a recueilli les éloges de certains critiques français et a présenté ses premières toiles de maternité. Prenons nos pinceaux, la toile encore vierge, et posons notre chevalet en terre parisienne. Bienvenue chez Marie Stevenson Cassatt. En 1882, pour la 7e manifestation des artistes indépendants, Gustave Caillebotte réussit non sans mal à réunir les acteurs initiaux du mouvement impressionniste, Monet, Pissarro, Renoir, Sisley, Berthe Morisot, entre autres. Bien des négociations ont eu lieu pour convaincre les artistes après tous les points de rupture des années précédentes. En signe de protestation pour la non-acceptation de nouveaux peintres, Degas, qui a payé sa cotisation, refuse d'y participer. De ce fait, il entraîne à sa suite la défection de Marie Cassatt, Forain, Roire et Raffaelli. Le mouvement impressionniste est en crise. Des clivages surviennent entre les partisans d'une peinture de plein air classique, dont la bourgeoisie est une clientèle en puissance, et le groupe des novateurs en techniques variées et innovantes, telles les estampes, les monotypes rehaussés ou non de pastel, dont Pissarro, Degas, Cassatt en sont les adeptes.
Un injuste départ.
À cette époque, de graves soucis familiaux tourmentent Marie Cassatt. En effet, sa sœur Lydia, soumise à de graves ennuis de santé depuis des années, décède le 7 novembre 82 à 45 ans de la maladie de Bright, une atteinte rénale. C'est une terrible disparition pour Marie, qui a soigné cette grande sœur élégante et prise de mode, de couture, et qui lui servait de modèle. Elle en ressent une immense peine, d'autant plus qu'elle s'occupe aussi de ses parents, âgés de 76 et 66 ans. Ce chagrin va la détourner de la peinture durant quelques années.
Lydia était célibataire, n'est-ce pas ?
Tout comme Marie, qui l'est aussi. Elles sont issues d'une génération où tous les hommes d'une vingtaine d'années ont été mobilisés pour la guerre de sécession de 61 à 65, sauf ceux qui ont pu s'acheter un remplaçant comme son frère Alexander. De ce fait, de par les pertes cruelles de 600 000 soldats, le fossé s'est creusé entre les hommes disponibles et les femmes. Ces dernières sont restées célibataires, non pas par choix, mais par manque de prétendants. Indépendantes, travaillant, ces jeunes femmes ne suscitent pas les critiques de par leur style de vie. Après le décès de sa sœur, Marie reçoit la visite de son amie Louise Inelder. Dirigeons-nous à présent vers le musée, découvrir les dernières productions de l'artiste de 1882.
Du côté du musée.
Mais, auparavant, revenons sur trois créations exécutées l'année précédente. Lydia Brodant, de 81, nous décrit la jeune femme penchée sur son métier à broder dans sa chambre à Paris. La paire de gants-grenats de Marie est posée sur le cadre jaune. Le tout est peint dans des coloris jaune d'or. Fillette dans un jardin, où Suzanne assise, est datée aussi de 81. Suzanne, chapeautée, est assise regardant ailleurs. Un rayon de soleil éclaire sa robe. La fillette est la cousine de Mathilde Vallée, la gouvernante de la peintre. Le musée des arts de Philadelphie abrite le tableau à l'huile, en voiture. Une femme, une fillette, assise à ses côtés dans une voiture, tient le fouet et les rênes d'un cheval, dont on n'aperçoit que la croupe devant un bois sombre. Un très jeune palefrenier, en manteau noir, est assis à l'arrière en sens inverse. Lydia pose en compagnie de la nièce de Degas. En effet, Odile Fèvre, âgée d'environ 5 ans, est en voyage en France avec sa maman Marguerite Degas Fèvre. Les parents se sont installés à Buenos Aires il y a peu d'années. Madame Fèvre et ses enfants sont de passage à Paris, rendre visite à Edgar Degas. Les couleurs, rose et blanche de la robe de la fillette, apportent une note d'éclat à cette toile plutôt sombre et austère. « L'année 82 est riche en création. Jeune fille au jardin, ou jeune femme cousant dans un jardin, est au musée d'Orsay. Cette jeune femme, habillée d'une longue robe bleutée, est assise devant un parterre de géranium rouge, occupé à des travaux d'aiguille. Le feuillage vert est coupé par un sentier montant à l'arrière-plan. Le rouge des pommettes et des lèvres s'accorde avec les fleurs. Cette toile, exposée en 1886, fut achetée par Antonin Personnage et léguée ensuite en 1937 aux musées nationaux pour le Louvre. Jeune fille en noir est une huile sur toile dans une collection privée. Une jeune femme brune, aux yeux foncés, en robe noire, se fond dans un décor tout aussi sombre. Seule, la blancheur du visage et le rose des lèvres amènent une note de clarté à l'œuvre. Celle-ci fut présentée en 1931 à la galerie Reitlinger. La toile appartenait à Mathilde Vallée qui s'en sépara cette année-là. À la National Gallery of Art de Washington, vous trouverez la loge, une huile provenant de la collection Chesterdale. Deux jeunes femmes, dont l'une tient un éventail, l'autre un bouquet de roses jaunes dans leur loge, sont brossées dans des blancs mousseux, rehaussés du jaune des bordures des balcons. Restons toujours au théâtre, mais cette fois exprimés par la technique de la gravure. Vers 82, Marie Cassatt nous laisse, au théâtre, reflet dans la glace, vernis mou et aquatinte. Le réalisme de la scène se trouve amoindri par les jeux d'ombre et de lumière. En effet, cette atmosphère en demi-teinte de gris et blanc dissipe le sujet lui-même. Nous ne savons plus si deux personnages coexistent ou un seul et son reflet. Dans « Deux femmes dans une loge tournée vers la gauche », vernis mou et aquatinte, collection privée, le modèle n'est plus figé de par la magie de l'estampe. Il se noie, se perd dans une tonalité grisée et diffuse. C'est grâce à cette ambiance tamisée, restituée par le procédé de la gravure, que l'objet apparaît. Sous la lampe, Institut de l'art de Chicago, est une estampe au vernis mou et aquatinte, en noir sur vélin crème. Elle décrit sa mère et sa sœur le soir, sous la lampe, l'une occupée à lire, l'autre à des travaux d'aiguille. En parlant de cette gravure, à Achille Segar, son biographe, elle confiera en 1913. Voilà qui vous apprend à dessiner. Les techniques de la gravure, vernis mou, eau forte, aquatinte et pointe sèche, ont réconcilié Marie Cassatt avec le dessin. Rappelons-nous, à l'école des beaux-arts de Philadelphie, elle arborait le dessin. Par sa rencontre avec les graveurs, Pissarro, Braquemont et Degas, elle s'est investie entièrement dans cette nouvelle manière de dessiner, de reproduire le quotidien, que ce soit l'opéra, à l'heure du thé, celui de la toilette, du courrier, de la couture ou des relations mère-enfant.
Anecdote.
Dans les années 80, Degas s'attelle à sa série des modistes. Parfois, Marie Cassatt prend la pose pour lui. Toujours à la recherche d'œuvres pour ses amis collectionneurs, Marie déclare un jour à Ambroise Vollard au sujet du tableau « Atelier de modistes » d'Edgar. « Si jamais vous pouvez retrouver ce tableau, je connais un Américain qui le paierait n'importe quel prix. » Quand Vollard rapporte les propos à Degas, ce dernier, après réflexion, prend son pinceau et macule une des figures.
Visite à un compatriote.
Marie se rend à Londres en 83 auprès du peintre Whistler afin d'admirer un portrait qu'il a peint de sa belle-sœur Maria, femme d'Alexander. Arrangement en noir numéro 8, portrait de Madame Cassatt, collection privée. Passionnée de mode, cette dernière est déçue de sa tenue dans laquelle le peintre l'a représentée. Aussi, quelques années plus tard, en 88, Marie saisira sa belle-sœur dans une magnifique robe bleue ouvragée.
Un mariage productif.
L'industriel Henry Osborne Evemeyer, qui a fait fortune dans le sucre, est un passionné de peinture classique, école flamande, et réaliste, école de Barbizon. En cette année 83, il se marie avec Louisine Elder, éprise des toiles de Manet, Degas. Ensemble, ils vont acquérir plus de 2000 œuvres en tableaux, gravures, objets, dont environ 50 compositions des impressionnistes, Cassatt, Degas. Le marchand d'art, Paul Durand-Ruel, contribuera à enrichir leur patrimoine, de même que Marie, conseillère des grands collectionneurs américains. Les liens d'amitié entre la peintre et son amie Louisine vont perdurer pendant près de 60 ans. Cette année-là, Marie fait aussi un voyage en Espagne.
Des rencontres fructueuses.
La famille Cassatt, Marie et ses parents, emménagent au 14 rue Pierre-Charron dans le 16e à Paris. Des contacts prometteurs vont émailler le cours de l'année 84. Tout d'abord, celui de Georges Clemenceau, journaliste, homme politique, amateur d'art et grand ami de Monet. Puis, la rencontre d'un agent artistique américain, Georges Lucas, établi à Paris. Il acquiert les gravures aux fortes mobiles de Charles Lepic. Il va servir d'intermédiaire entre Marie et les collectionneurs marchands d'art d'Amérique. Ainsi, elle fait la connaissance de Samuel Avery, un négociant spécialisé dans les estampes, qui va lancer ses gravures sur le marché américain. Marie peint peu depuis le décès de sa sœur. Elle s'occupe de ses parents vieillissants. Elle s'adonne à quelques estampes durant ses années de deuil. Néanmoins, en 83, elle brosse un portrait de sa mère, Catherine Cassatt, dans la lecture du Figaro. Un journaliste de New York, Carter, rédige un article en ce sens.
Le portrait de Miss Cassatt fait partie des meilleures toiles d'un point de vue technique. Il est plaisant de voir que l'on peut mettre en valeur une personne ordinaire, habillée d'une façon ordinaire. Comment la vue de cette femme lisant le journal, assise d'une façon si étudiée dans sa robe d'intérieur blanche, ne pas tomber sous le charme de cette peinture bien dessinée, bien éclairée, bien structurée et bien composée.
Elle croque aussi quelques enfants, 84, dans « Enfants jouant sur la plage » et « Fillette au chapeau de paille » à la National Gallery of Art de Washington. Elle n'oublie pas son frère Alexander, qu'elle immortalise en 84-85, dans « Alexander J. Cassatt et son fils Robert Kelso Cassatt, un tableau à l'huile au Musée des Beaux-Arts de Philadelphie. Quand elle ne peint pas, Marie pose pour Edgar Degas ou part en voyage avec sa mère, comme en 84. Marie se perfectionne en gravure et étonne le maître graveur Félix Braquemont. Ce dernier veut la faire rentrer dans l'atelier de céramique de chez Aviland, car il en est le dirigeant artistique. À cette époque, Henri Beraldi, dans son dictionnaire des graveurs du XVIIIe siècle, cite le maître en ces termes.
On a souvent loué Braquemont de la connaissance approfondie qu'il possède des pratiques mécaniques, chimiques, ou si vous voulez un mot plus familier, de la cuisine à l'eau forte. Il est certain qu'il n'est point embarrassé de manier un burin, une hoquette de sculpteur, qu'il est grand chercheur de procédés nouveaux. Qu'il a fait des essais de manière noire, de vernis mou, de pointes sèches non ébarbées, qu'il n'ignore point ce qu'est l'aquatinte en boîte, l'aquatinte en liqueur et aquatinte en sel, qu'il a tenté même des gravures en couleur par le procédé de Bucourt.
Marie, tout comme Degas et Pissarro, vont améliorer, innover en mélangeant techniques diverses et variées. La variation des teintes, le pastel, la peinture vont venir rehausser ces estampes. En 85, l'art devient moins brut et se targue de couleurs, de sensualité. Au cours de 1885, Marie brosse le portrait de la cousine de sa mère, Madame Riddle, dans « Dame attelée devant le thé » au Metropolitan Museum of Art de New York. Elle est assise devant un service à thé en porcelaine bleue décoré d'or. L'attitude rigide, rigoriste est renforcée par la robe noire boutonnée jusqu'au cou et la mantille nouée sous le menton. À ce propos, Degas déclare
la distinction même.
Paul Durand-Ruel, dont les affaires subissent un revers depuis le crash financier de 82, reçoit en 1885 le directeur de l'association d'art américaine, James Sutton. Celui-ci lui offre la possibilité d'exposer à New York. Durand-Ruel, ravi, en parle aux peintres impressionnistes, dont les réactions divergent. Marie Cassatt en est enchantée quant à elle. Notre voyage en terre de couleurs se termine sur les dernières années attristées de Marie Cassatt. Je vous donne rendez-vous prochainement sur cette même antenne pour sa dernière exposition des impressionnistes.